chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre émission quotidienne, à votre avis sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous accompagner dans cette discussion pour savoir ce que vous pensez des groupes de surveillance de voisinage pour la sécurité des quartiers. Ce sont des programmes qui sont en vigueur notamment aux États-Unis, c'est très présent, en Australie également, en Allemagne, en Belgique, dans quelques villes françaises. C'est un programme qui tend, ce sont des programmes qui tendent à s'étendre. Alors est-ce que vous êtes pour ou contre ce type de dispositif qui existe également dans certains endroits en Afrique, et vous allez nous en parler, vous allez nous dire ce que vous en pensez, si vous êtes pour ou contre, si vous y participez ou si vous aimeriez y participer, en tout cas si vous aimeriez créer cette forme de groupe. Vous pouvez appeler en direct au 001 202 205 26 33, je répète 001 202 205 26 33 pour participer en direct à cette émission. On a notamment le commentaire sur le Facebook de VOA Afrique de Thierry qui est à Bujumbura. On a Louis en République démocratique du Congo en ligne. Je pourrais lire le commentaire de Thierry tout à l'heure si on ne peut pas l'avoir en ligne. Louis, on a Thierry également. On prend Louis en premier qui est en République démocratique du Congo. Louis, bonsoir. Comment ça va? Louis, est-ce que vous m'entendez? Non. Le son est vraiment très mauvais avec Louis. Visiblement, on a un problème de ligne. C'est bien dommage. On va essayer d'arranger ça. On fait comme on peut, c'est-à-dire qu'on essaie de rappeler. On n'a pas beaucoup le choix. Donc, Louis a écrit sur notre Facebook. C'est comme ça qu'on peut se récupérer en citant vos commentaires. C'est aussi pour ça qu'il est important que vous laissiez des commentaires sur notre Facebook. Donc, Louis a écrit « C'est une bonne stratégie pour maintenir la sécurité qui reste un phénomène imprévisible pour beaucoup de pays, dit-il, car si la population est impliquée dans le plan de sécurité de son milieu, c'est plus facile de la maintenir. C'est l'exemple de notre capitale Kinshasa en RDC, où dans certains quartiers, les jeunes s'organisent la nuit pour renforcer la sécurité. Donc c'est bien dommage qu'on ne puisse pas en savoir plus de la part de Louis. On a donc Thierry à Bujumbura qui est en ligne. Bonsoir Thierry.
Oui, bonsoir Nathalie, comment vous allez?
Ça va très bien et vous-même?
Oui, je vais bien, ok. Alors Nathalie, je vous remercie d'abord parce que ce sujet, c'est un sujet très intéressant. Du moment où en Afrique aujourd'hui, il y a l'insécurité qui règne, surtout dans les capitales, vous voyez en Afrique, au Centre-Afrique et aussi dans la capitale Bujumbura, je ne peux pas dire que la sécurité est tout à fait très bien assurée, mais si ces groupes sont très bien installés dans la capitale et dans les villes, je crois que c'est une très bonne chose. Et c'est par ailleurs ce que nos autorités ont tenté de faire. Mais le problème est que souvent, ces groupes sont vraiment manipulés par les politiciens, par les formations politiques. Et ici, je cite le parti au pouvoir qui est souvent soupçonné, et qui a des gènes. Et ces gènes sont vraiment utilisés dans surtout à l'intérieur du pays, sont vraiment accusés d'hommes. De maltraiter, de menacer les opposants. Et c'est ça qui fait le problème. Sinon, l'initiative était vraiment une bonne chose. Pourquoi? Parce que si la population est vraiment impliquée dans le processus de sécurisation, c'est vraiment une bonne chose. Et on peut accéder facilement dans des endroits où se cachent peut-être que les auteurs de troubles, ceux qui troublent la sécurité. Parce que la population, elle aussi, a un grand rôle à jouer. Il peut donner des renseignements aux agents de sécurité. Et aussi, si la population est impliquée, elle aussi peut lutter contre le banditisme, par exemple. Parce que l'agent de sécurité ne peut pas être dans tous les endroits à la fois. Mmh. C'est ça, par ailleurs. C'est ça, je crois que ces groupes doivent être installés dans toutes les villes de la capitale, dans tous les coins de la capitale burundaise pour bien assurer la sécurité.
Et en fait, vous dites hein, sur notre Facebook, vous avez aussi écrit, les jeunes de différents partis s'attaquent alors que ce sont eux-mêmes qui devraient collaborer avec les services de sécurité. Alors vous parlez finalement d'un manque à gagner là, peut-être en matière de sécurité, tous ces jeunes effectivement qui sont très souvent dans la rue pour des manifestations ou autres, même qui peuvent être violentes, hein, qui s'attaquent les uns les autres comme vous le dites, pourraient avoir peut-être de meilleures choses à faire.
Voilà, si les jeunes sont bien sensibilisés, sont bien mobilisés, parce que ce sont eux qui sont souvent manipulés, ce sont eux qui sont souvent instrumentalisés dans les manifestations, bien sûr. Mais aussi, nous voyons les jeunes en train de maltraiter les opposants. Et aussi, c'est bien, je l'ai très bien signalé, les opposants des différents partis. Ici, je voulais dire, les jeunes appartenant au parti au pouvoir et ceux de l'opposition, ils s'attaquent vraiment avec force et souvent nous déplorons des morts.
Alors, des morts. Alors Thierry, en fait, pour qu'il y ait ce type de principe de programme, par exemple, hein, dans certains pays, notamment au Burundi, comme vous le dites, ce sont des programmes de sécurisation des quartiers, hein, des gens du quartier, du voisinage, qui ont décidé de voir un petit peu ce qui se passait s'il n'y avait pas de problème dans le quartier pour ensuite prévenir la police. L'objectif, c'est ça. Et vous dites que pour qu'il y ait l'instauration de ces groupes, pour que ce soit avantageux, il faut qu'il y ait des limites. Alors, quand vous dites des limites, vous pensez à quoi? Une structure officielle qui permettrait de réglementer cela?
Voilà, une structure officielle. Pourquoi? Parce que ces jeunes, vous voyez par exemple les jeunes qui appartiennent au parti au pouvoir, ils sont souvent soupçonnés de maltraiter les opposants.
Oui, mais ça c'est politique. Oui, mais on revient, c'est pas la peine de revenir là-dessus, vous en avez déjà bien parlé. Ça c'est politique, c'est pas du tout l'objectif. En fait, le sujet, ce sont vraiment des gens du quartier, comme vous et moi, avec les voisins, qui se mettent ensemble pour instaurer la sécurité donc dans votre quartier, dans votre ville, etc. Donc, merci beaucoup Thierry. On va vous laisser pour avoir d'autres auditeurs en ligne, notamment Pancréas à Cotonou éventuellement. On l'a pas en ligne. Alors, Pancréas à Cotonou a écrit « Je suis pleinement d'accord avec ce programme. Ceci est un exemple de ce que nous devons copier chez ces grandes puissances. » Car ce dispositif vient à l'appui du système sécuritaire, surtout sur le plan des renseignements, dit-il. Mais il faudrait que les membres de ces différents groupes soient formés et également financés, car c'est encore un autre pan du bon fonctionnement du programme. Alors je voudrais dire que Adama, qui a laissé une moitié de message, c'est bien dommage, Adama, donc c'est une dame, ça serait bien qu'elle participe à l'émission, on n'a pas ni ses coordonnées ni son message, donc je ne peux pas dire ce qu'elle pense sur cette question. Adama, si vous m'entendez la prochaine fois, laissez un commentaire. Prosper au Bénin, est-ce que nous l'avons en ligne? Oui. Bonsoir Prosper.
Bien sûr, bonsoir à la VOA.
Comment allez-vous?
Très bien, il faut que ça dure la VOA.
Alors vous parlez de l'exemple du Nigeria. Vous êtes béninois mais vous avez l'exemple du Nigeria à nous citer. On vous écoute.
Bien sûr, ce cas, moi, je ne l'ai pas souvent constaté au Bénin. J'ai la chance quand même de rester au Nigeria, de rester longtemps là-bas, et surtout dans la période de vacances, et aussi je suis resté là-bas en tout cas plusieurs années. Et j'ai constaté qu'il y a une sorte d'organisation bien structurée dans certains quartiers au Nigeria, surtout à Banagri ou encore dans les quartiers environnants où je suis resté. En fait, quand vous y allez, en même temps, vous constatez que déjà à partir de 22 heures environ, souvent c'est l'heure commune que le quartier utilise, 22 heures, il y a quelqu'un qui commence à siffler dans tous les quartiers. Et déjà, le premier contact m'a expliqué comment ça se passe dès le jour, le premier jour qu'il a constaté. Mais qu'on siffle, c'est que vous êtes déjà informé à partir de 22 heures ou bien à partir de l'heure à laquelle on siffle, c'est que plus personne n'est autorisé à sortir de sa maison et de circuler dans le quartier tant qu'il n'a pas sa carte d'identité chérie, ou encore, cette personne passe sur elle, sa carte d'identité, ou encore quelque chose qui atteste que je suis dans telle maison qui est dans le quartier. Parce qu'il ne suffit pas aussi d'avoir la carte d'identité. Parce que l'objectif en réalité de ceux-là qui ont été mis en place, c'est de pouvoir sécuriser non seulement tout le quartier, les entrées, les sorties, mais aussi de sécuriser ceux qui y sont. Mais ils maîtrisent en quelque sorte l'effectif, bon, eux aussi. Banalement, ils maîtrisent banalement toutes les
mais attendez, Prosper, ce cas est vraiment intéressant, mais moi je me posais la question en vous écoutant de savoir si ces gardiens dont vous parlez, est-ce qu'ils ont le droit de contrôler quelqu'un, de lui demander sa pièce d'identité, parce que logiquement, seul un policier peut faire ça, il me semble.
Ouais, bon, en vérité, tant que vous êtes dans le quartier, ils sont si organisés que tant que vous êtes dans le quartier, en fait, ils font des réunions, peut-être de manière mensuelle, bien, je ne sais pas, mais ils font des réunions qui regroupent tous les membres du quartier, ils prennent par maison, par chaque maison, pour apprendre au moins le propriétaire d'une maison, pour lui parler de cette organisation. Et c'est d'une manière inclusive qu'ils essayent de cotiser pour pouvoir désigner qui sont ceux qui sont les sept gagnés-là qui vont...
Donc c'est quelqu'un... Attendez.
En réalité, ils sont...
Prosper, c'est quelqu'un de la communauté. C'est pas un gardien privé qu'ils vont payer. C'est bien quelqu'un de la communauté. C'est ça ou pas?
C'est bien quelqu'un de la... Okay. C'est souvent quelqu'un de la communauté parce que c'est pas un gardien privé. Non. C'est souvent des gens de la communauté qui savent très bien faire la chose. Et aussi, ils peuvent toutefois aller choisir quelqu'un d'autre bien, mais tout se fait d'une manière, dans une concertation.
Est-ce que c'est un quartier assez riche? Ou est-ce que ce sont des quartiers riches ou est-ce que tout type de quartier peut faire cela?
Non, pas nécessairement.
D'accord.
Quand vous allez au Nigeria, c'est presque tous les quartiers qui le font. Mais c'est vrai que dans les quartiers plus ou moins riches, la chose est encore plus structurée du point où on peut même avoir un portail d'entrée ou de sortie dans un quartier. Mmh. À partir d'une certaine le portail est fermé.
Excusez-moi, Prosper, j'ai plein de questions à vous poser. Et ça sera la dernière. Après, on passe à notre auditeur. Je suis curieuse de savoir aussi, parce que vous parlez de pièces d'identité, les entrées, les sorties sont strictement contrôlées. Est-ce que selon vous, on voit bien que ça présente une grande forme de sécurité, mais est-ce que selon vous, ce n'est pas trop restrictif?
Pardon?
Est-ce que ce n'est pas trop restrictif?
Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout restrictif parce que, mais écoutez, quand ça se fait d'une manière, quand ça se fait sous concertation et qu'on sait que c'est comme cela le quartier fonctionne, moi je pense pas que ce soit aussi effectif que ça. Parce que bon,
ils
se disent que oui, c'est pour leur sécurité et je crois que c'est leur manière à eux d'assurer leur sécurité. Je crois.
Un grand merci, Prosper. On a Kevin, je crois, en RDC, République démocratique du Congo. Non, nous ne l'avons pas. Kevin a écrit, s'il y avait un tel groupe dans mon quartier, j'aimerais bien y participer pour mettre fin à l'insécurité qui fait rage dans ma ville, dit-il, car on est vraiment fatigué des cambriolages et tueries, ce qui est grave. On ne sait pas de quelle ville il est, Kevin, mais dans tous les cas, il est en République démocratique du Congo. Valentin Njamena, lui, a écrit, je suis pour la sécurité de voisinage car veiller à la sécurité de son voisin est une bonne idée. Les villes africaines pourraient copier ce bon exemple, dit-il. On a Géchouroun en Côte d'Ivoire. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Comment allez-vous?
Nous allons très bien.
Parfait, je vous écoute.
En Côte d'Ivoire, les groupes de sécurité sont nés de la défaillance de l'État et donc ils sont nés de façon spontanée. C'est-à-dire que ce sont des jeunes des quartiers qui se sont mis ensemble pour veiller à la sécurité des populations. Et ils se font payer en allant chaque fin de mois encaisser une somme qu'ils ont fixée d'avance à chaque membre de famille. Et le problème, c'est que souvent, quand des personnes
je voudrais savoir, c'est Ada ou Kro, ça, vous parlez de ce cas-là dans votre ville en particulier?
C'est comme, mais c'est en particulier dans la capitale.
Ah d'accord, c'est dans ici, la capitale, ok.
Ici, il y en a, et quand ces jeunes-là se constituent, ils font, ils veillent sur la sécurité des populations et ils se font payer en allant encaisser de l'argent chaque fin de mois à chaque famille qui habite dans le quartier.
Mais est-ce que, attendez, parce que c'est trop intéressant là, attendez, ils vont demander de l'argent aux familles, est-ce que toutes ces familles-là sont au courant qu'on va leur demander de l'argent?
Ah oui,
Est-ce que c'est une entente ou est-ce qu'on frappe à la porte et on dit voilà, j'ai protégé votre quartier, maintenant il faut me payer?
Il est clair que de façon spontanée, puisque les quartiers ont souvent des entrées, et nous voyons que ces jeunes-là patrouillent toutes les nuits. Et c'est comme si, même si vous ne donnez pas votre accord, c'est comme si vous êtes obligé, parce que après coup, si vous ne participez pas au paiement de ces frais-là, après coup, vous voyez que vous êtes l'objet d'un cabriolage et vous ne savez pas comment c'est venu.
Ouais. Oui. Mais bon, qu'est-ce qui garantit que la personne qui va frapper à votre porte a en effet bien protégé le devant de votre maison, votre quartier? Et je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas des abus dans ce sens-là ou est-ce que vraiment on a affaire qu'à des gens honnêtes?
Et toute la problématique est là, madame. Ce sont des groupes informels d'autodéfense et qui gagneraient à être encadrés seulement par les autorités. Sans cela, en général, les malfrats eux-mêmes s'infiltrent dans ces groupes-là et puis il y a une sorte de duplicité qui ne dit pas son nom, madame.
Oui, parce que vous le dites vous-même dans votre message que tout de même certains sont accusés d'abus.
Oui, les abus, c'est que très souvent, quand on ne les respecte pas, ils commettent des dégâts, notamment les bouzous. Vous savez, les chasseurs traditionnels.
Alors, c'est-à-dire que c'est une certaine forme de chantage, ça, c'est criminel. C'est-à-dire que on vous propose de protéger votre quartier. C'est un petit peu la mafia qui agit comme ça généralement, n'est-ce pas? On vous demande de l'argent et puis si vous ne payez pas, on vient casser votre maison, c'est ça?
Bon, pas casser la maison, non, mais vous êtes victime, j'allais dire, de cambriolage, vous savez. Et donc, cette solution, mais ça se rapproche à peu près à la mafia que nous regardons souvent dans les films italiens.
Merci beaucoup, Jeshurun, pour ce témoignage. On a le témoignage de Botégué à Douala qui dit « Je suis pour, car cela joue un rôle très important, surtout en ville ». On l'a en ligne, justement. On l'a en ligne. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez, Botégué? Tidiane Botegueba, vous m'entendez ou pas? Non, il ne m'entend pas, c'est pas grave. Est-ce qu'on a mes fils à Cotonou? Oui. Mes fils, bonsoir.
Bonsoir, Véo Afrique, bonsoir à tous.
À vous la parole.
Oui, je pense que l'instauration de ce programme en Afrique va permettre évidemment de réduire drastiquement les cambriolages que l'on a l'habitude de voir à travers nos différentes villes ici en Afrique. Et je pense qu'au Bénin, il y a ces genres d'associations qui réunissent évidemment les jeunes autour de la sécurité où les jeunes s'attellent, veillent toutes les nuits pour pouvoir permettre à ce que les populations puissent dormir avec une certaine sorte de quiétude. Et le travail est si bien huilé ici à Cotonou où vers 0h comme ça, il y a des jeunes qui sillonnent dans les quartiers et qui régularisent les choses de telle manière que un individu ne peut pas sortir pour aller peut-être acheter sans montrer, par exemple, le cadre d'identité.
Ah, mais attendez. Donc, je pense que... attendez. Mes fils, moi, je vous pose la même question qu'à d'autres. Ces jeunes-là, ils ont le pouvoir de demander la carte d'identité des passants.
Oui, parce que la chose est organisée de telle manière que, ça dit, le chef quartier est inclus dedans. Donc, il a il y a sa part de responsabilité dans le processus pour pouvoir permettre à ce qu'on puisse définir si cette personne-là réside dans tel quartier ou pas. Donc,
on peut très bien ne pas habiter dans tel quartier, mais le visiter. C'est pas interdit de visiter un quartier dans lequel on ne réside pas, non?
Oui, c'est pas interdit, mais si vous venez dans un quartier, vous avez visité au moins une personne, soit un habitant du quartier. Donc, si vous avez des problèmes avec ces gens-là qui sont positionnés dans le quartier, qui sécurisent en fait ce quartier, il suffit d'appeler celui-là et celui-là viendra pour montrer évidemment que cette personne-là est venue chez moi. Donc, la situation est réglée comme ça. Sinon, il n'y a pas souvent de grincement des dents. S'il y a ces gens de problèmes qui sont sur le terrain, le chef quartier essaie de régler avec ces jeunes-là, donc il n'y a pas tant de tapage.
J'ai l'impression qu'avec ce sujet, on découvre un autre problème. Je vous pose la même question qu'à Abdoulaye Jechouroun. Est-ce qu'il n'y a pas des cas d'abus? Vous dites, vous écrivez sur notre Facebook, il vérifie de bout en bout ce que ces derniers ont comme bagage. C'est un grand pouvoir, ça, de pouvoir vérifier les bagages des passants.
Oui, je pense que c'est un grand pouvoir. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir confiance aux gens. Quand vous êtes dans un processus de sécuriser un quartier ou une ville, il faudrait toucher tous les points qu'il faut. Donc, ils sont obligés d'aller sur ce terrain-là pour pouvoir quadriller les choses. Parce que si vous laissez, on a souvent l'habitude de voir que les gens volent. Et quand on ne fait pas ce genre de fouilles, on n'arrive pas à décanter la situation au plus vite. Parce que si celui-là qui était positionné avait fait son travail comme cela se doit, je pense que celui qui a volé serait déjà dans les mailles de cette structure-là. Donc, il faudrait que ce travail-là soit fait en amont pour qu'on ait plus de sécurité dans nos différentes villes ici et en Afrique.
Merci mes fils, on a Benoît en RDC qui est un boy, il a écrit félicitations aux USA et autres pays qui ont ces programmes, franchement, du nouveau pour mon pays, le jour où ce service existera en RDC, le paradis reviendra sur le sol congolais, dit-il. On a un autre auditeur en ligne, Tierno en ligne, en Guinée,
bonsoir, à vous la parole,
allez-y rapidement.
Merci beaucoup. Je disais tantôt, je n'arrive pas à comprendre cela, de quoi cela signifie exactement, parce que je ne vois pas ça comme la meilleure solution, à mon avis. Surveillance voisinale, ça a toujours existé. Une fois que tu es attaqué, tes voisins viendront et appelleront au secours. Et chaque fois qu'on te voit dans les difficultés, les voisins alertent l'autorité. À mon avis, ce n'est pas la bonne manière de le faire, parce que si je prends l'exemple ici dans mon pays, si on dit aux jeunes du quartier d'assurer la sécurité, ça va dégénérer parce qu'ils n'ont pas de bonne formation pour le faire, parce que ça aura tous des abus, quoi. Ils vont toujours exagérer. Il y a un sale là, il y a certains jeunes qui se mobiliser pour assurer la sécurité de leur quartier, mais il a fallu que les autorités mettent fin à ça, parce que chaque fois que quelqu'un doit quitter le quartier voisin pour venir dans leur quartier, automatiquement, on l'interpellait, on le demandait des cartes d'identité, etc. Si tu n'en as pas, ou bien si tu n'habites pas dans ce quartier, on te crée des problèmes, parce qu'ils ne sont pas habilités à le faire. À mon avis, c'est à l'autorité d'assurer la sécurité des citoyens. C'est ce qui est plus important. Mais comme l'idée vient des États-Unis, un pays qui a beaucoup de difficultés dans la sécurité intérieure, l'insécurité règne aux États-Unis, ça depuis plusieurs années, ils sont vraiment incapables d'assurer la sécurité. Comme l'idée vient de là, attendons de voir, peut-être dans l'avenir, ça va apporter quelque chose, mais je pense pas quand même. Je pense pas que ça va aboutir à quelque chose, parce que ceux qui viendront pour dire surveillance voisinage, est-ce qu'ils auront des moyens financiers ou bien matériels pour faire face à l'insécurité? Je ne crois pas, parce que la plupart de bandits sont vraiment lourds, d'autres sont lourdement armés, l'autre sont armés de massacres et autres, alors que c'est pas du tout possible qu'un citoyen civil, comment dire.
Merci beaucoup, un grand merci Thierno, un grand merci à Joselle Morissin et à Fredner Kayemit à la production, ainsi qu'à Dan Crafton. Merci à tous, chers auditeurs, chères auditrices. À très bientôt, au revoir.